prier.
Seigneur, je veux te remettre encore cet enseignement de ce matin. Nous avons besoin d'entendre ta voix à travers l'écriture, à travers ces réflexions, parce que nous voulons vivre pour toi. Seigneur, fais que nous ayons vraiment des oreilles qui écoutent, des cœurs qui reçoivent, parce que nous voulons avant tout, et c'est enfoui vraiment dans notre cœur depuis notre nouvelle naissance, nous voulons avant tout que ton nom soit glorifié. Il se peut des fois que, au cours de notre vie, notre attention soit captée par autre chose, ou que nous ayons d'autres motivations dans la vie, mais je crois que, au fond, en nous, nous voudrions qu'un grand nombre de personnes puissent te connaître, confesser ton nom, te glorifier, t'adorer, justement parce que tu en es digne. Seigneur, dans notre faiblesse, aide-nous à te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je continue avec la quatrième de cette série aujourd'hui. Je sais que mon habitude, c'est beaucoup plus de prêcher sur des textes, un peu des textes textuels, mais j'avais vraiment à cœur de parler de ce thème aujourd'hui. Ça se trouve hier que j'ai encore, par le hasard des choses, entendu toute un exposé sur le thème aujourd'hui dans la journée des sciences humaines organisée par le GBU. Et la personne qui a ouvert le bal, Dominique Angers, avait fait une thèse à la fac de théologie de Strasbourg sur le mot aujourd'hui dans la Bible. Et il nous a dit que, entre autres, que ce mot se retrouve 60 fois seulement dans le livre de Deutéronome. C'est pour dire. Donc aujourd'hui, c'est quand même un thème biblique très fort. Et donc, jusque-là, on avait fait 3 aujourd'hui. Le quatrième est un peu plus long comme énoncé. Guettez la personne que Dieu met sur ma route aujourd'hui. Avoir les yeux ouverts. J'ai essayé de trouver la bonne façon de le dire. Mais on va revenir un petit peu par rapport au passé, juste pour faire une petite révision. Et j'avais parlé de l'héroïsme au quotidien. Celui qui veut servir le Seigneur, c'est un héros qui assume ce rôle dans le banal, dans le quotidien. Sur le papier que Marie a fait pour le ménage, je crois qu'il a mis en bas que le ménage est aussi spirituel que de prêcher ou de faire la musique dans l'église ou je ne sais pas quoi, parce que c'est déjà le rôle que le Seigneur nous a donné dans Genèse 1, donc de s'occuper de la terre. Donc c'est l'héroïsme du quotidien, parce qu'on sert le Seigneur au quotidien, et ça ne sert à rien que d'être très spirituel lors du culte si le reste de la semaine on n'a pas à cœur de vivre avec le Seigneur. Donc le premier verset que j'avais cité, c'était Ésaïe 38, « Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. » Donc c'est louer le Seigneur et adorer le Seigneur. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, il faut dormir un peu. Mais c'est vraiment à tout moment de vouloir avoir ce cœur qui adore Dieu. Deuxième chose, c'était la confiance. Proverbe 22, 19. Pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel, je veux t'instruire toi aussi aujourd'hui. Donc cette confiance quotidienne aussi que l'on peut avoir auprès du Seigneur. Troisième, je n'ai pas eu la référence, je vois. C'était de mémoire 2 Corinthiens 6, je pense. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. vérifier le texte. En fait, ce n'était pas ça, c'était. Hébreux 3:13. Aujourd'hui, le combat, le bon combat. Alors, voilà 3 et le quatrième qui arrive. Donc, on va dire que c'est cette notion-là de guetter la personne que Dieu met sur ma route. Et je vais développer aujourd'hui la pensée de cette prédication sur deux thèmes, le relationnel aujourd'hui et l'aventure quotidienne. On va commencer avec le relationnel. Les deux premiers messages, on peut dire que c'était la relation avec Dieu. Adorer Dieu et faire confiance à Dieu. Ok ? Et on va parler du relationnel. Pourquoi ? Parce que tout simplement, chose peut-être dont on ne parle pas assez. Le premier grand commandement et le deuxième grand commandement sont tous les deux relationnels. Le premier, je le lis, Matthieu 22, à partir du verset 34. Les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les sadduciens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour lui trouver: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, tous les jours, adorer le Seigneur, faire confiance au Seigneur. C'est aimer le Seigneur. C'est le mettre en première place. Et puis, les messages 3 et 4, on va dire que c'est un petit peu illustré par le deuxième commandement, toujours dans Matthieu 22, 39 à 40. Voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, quand on veut un résumé de toute la Bible, toute la loi et tous les prophètes, c'est aimer Dieu de tout son être, aimer son prochain comme soi-même. J'ai dit que les 3 et 4, c'est en fait avec les autres. Le troisième un peu en creux, parce que j'avais dit le bon combat. Mais pourquoi en creux? Parce que le Seigneur nous dit que notre bon combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, donc pas contre les êtres humains. C'est un autre combat, parce que le Seigneur nous demande, Romains 12, si cela est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et le quatrième commandement, là on est vraiment en phase avec le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour pour les frères et l'amour pour tous. C'est dommage que Rémi 7 est descendu, parce que à l'étude biblique, depuis 3 semaines, j'ai un petit truc. Jean 13, 35, c'est quoi? Alors les autres qui sont là peuvent le dire. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ok? Ça, c'est Jean 13, 35. Mais on a vu aussi, et c'était une découverte pour moi, parce que c'était deux versets que je ne connaissais pas. Dans 1 Thessaloniciens, si tu veux savoir, il y a une place. Hein? Ah oui, d'accord. Okay. 1 Thessaloniciens 3, 12 et 5, 15, on a trouvé deux versets que franchement, je n'avais jamais remarqué dans la Bible. C'est extraordinaire. On peut lire la Bible pendant des années et découvrir quelque chose. 1 Thessaloniciens 3, 12, qui dit ceci: Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous. Donc, deux aspects de l'amour quand on parle d'amis son prochain. D'abord, au sein de la communauté, au sein de la famille de Dieu, au sein de l'Église, mais aussi pour tous. Faut les deux. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 15, il redit: prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc de nouveau, on a cherché le bien entre vous, entre chrétiens, mais aussi envers tous. Quelque part, de temps en temps, ça peut créer des petites tensions parce qu'on ne sait pas quelle priorité donner. Mais ce n'est pas nouveau. Parce que Paul, dans les Galates, le fait paraître aussi, dans Galates 6, 10, verset que j'aime beaucoup, avec une petite ambiguïté qui me plaît. Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères dans la foi. Il ajoute à la fin. Donc c'est envers tous, mais c'est surtout, mais c'est quand même envers tous, mais c'est surtout. Il bascule un petit peu entre les deux, parce que les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Donc voilà. Cette quatrième facette de l'aujourd'hui, donc pour enquête la personne que Dieu met sur ma route aujourd'hui, c'est pour que je l'aime. Pour que je l'aime. J'ai lu un livre pendant l'été, bon, j'ai lu même plusieurs livres pendant l'été, mais il y en a deux en particulier qui m'avaient bien plu. Il y en avait un qui parlait un peu de la mission de Paul, et donc de l'Église primitive, et j'ai trouvé une phrase dedans que j'ai traduite de la façon suivante, et qui illustre cela quelque part. Bon, c'est une phrase en fait qui parlait des épouses, les premiers chrétiens, en disant que à cette époque-là, la femme travaillait rarement à l'extérieur, mais certaines devaient s'occuper de toute la maisonnée, enfin, etc. Et la Bible qui nous dit d'exercer l'hospitalité. Et la phrase, c'était ceci: ces femmes avaient des occasions sans nombre pour aider ceux qui se trouvaient dans le désespoir autour d'elles. Et elle pouvait ensuite leur expliquer qu'elles avaient appris à vivre cette vie heureuse auprès de Jésus, qui avait tant fait pour elles. Et cette notion de vie heureuse, en aidant les autres, qui m'a beaucoup plu. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis dans ce quatrième aujourd'hui qu'enquête la personne sur ma route que je peux aimer. Donc, voilà. C'est le premier mot relationnel. Le deuxième mot, c'est aujourd'hui. Et donc, le texte de base que je vais utiliser pour cela, c'est Éphésiens 3, 10 et 11. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Christ connaît aujourd'hui. En fait, le mot en grec, c'est maintenant, qui était traduit par la Bible seconde par aujourd'hui, donc à l'heure actuelle. Aujourd'hui, les dominations et les autorités, donc on parle là des puissances spirituelles, pas de Dieu, hein, donc tout ce qui est ange, les anges déchus, etc., puissent connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc il y a un dessein, il y a un plan. Et là, on va revenir au premier chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens. J'avais enseigné ça à Dakar cet été, à tel point où je disais, Éphésiens 1, qu'est-ce que nous sommes? Toute la classe, une soixantaine, savait dire, élu, adopté, racheté, inclus dans son plan, héritier, scellé par le Saint-Esprit. Et quand j'ai fait l'examen à la fin, je crois que c'est la seule question où tout le monde avait la totalité des notes. Mais c'est là ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Nous sommes élus, adoptés, rachetés par le sang de Jésus, inclus dans son plan, héritiers et scellés par le Saint-Esprit. Mais on va simplement sortir ces versets 9 et 10. Parce que tout à l'heure, on avait parlé du plan de Dieu, hein, vous vous rappelez sur la diapo précédente. Versets 9 et 10. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, quand j'avais parlé des Éphésiens, dans cette église, il y a 2 ou 3 ans, il me semble, j'avais bien dit pour ce verset que ça ne veut pas dire que tout le monde, malheureusement, sera sauvé. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais c'est de réunir toutes choses en Christ. La traduction est un peu difficile. Les différentes versions le disent de façon différente, mais le mot même veut dire mettre de nouveau à la tête. Réunir. Que Jésus soit de nouveau à la tête. Aussi, on utilise le mot en latin qui vient exactement, qui veut dire la même chose, c'est récapituler. C'est de nouveau à la tête. Donc Jésus récapitule, en quelque sorte, ou est à la tête de, ou est l'aboutissement de, du plan de Dieu. C'est ça que l'on veut. Et on fait quelques petites recherches, j'ai compris que le même verbe est utilisé en maths et en art oratoire. En maths, pourquoi? Parce que nous, quand on fait une opération d'arithmétique très simple, on va dire par exemple, je reste dans mes compétences, 2 plus 2 font 4. Donc 2 plus 2 font 4. Alors que dans l'Antiquité, on disait 2 plus 2 font 4. Et le résultat était à la tête, en tête, au-dessus. Récapitulé, donc de nouveau à la tête. Également, le verbe est utilisé pour l'art oratoire, pour dire que c'était la conclusion, l'aboutissement de la démonstration. Donc c'était la récapitulation, c'était l'aboutissement. Donc, que dit ce verset? Donc, que Dieu voudrait, dans son plan, que Jésus soit vu, que l'on comprenne que Jésus est l'aboutissement de l'histoire, de toute l'histoire. Ce n'est pas la décision des êtres humains, ce n'est pas le hasard des événements, c'est que Dieu a son plan pour que Jésus soit à la tête. Soit reconnu comme étant l'aboutissement de l'histoire. Donc, si on veut, Jésus est à la fois le but de l'histoire et le moyen par son sacrifice pour qu'il soit le but de l'histoire. Et une grande partie de cela, en ce qui concerne le déroulement de l'histoire sur la terre, c'est l'Église. Parce que c'est dans l'Église qu'il y a des personnes qu'il a élu, adopté, racheté, inclus dans son plan, nous sommes héritiers et scellés par le Saint-Esprit. Donc, les chrétiens vont donc démontrer aux yeux du monde ce plan de Dieu que Jésus soit glorifié. Ok? Vous suivez jusque-là? On est ensemble. Ok? Alors, on va passer maintenant à la troisième chose de cette prédication. Que j'ai appelé donc l'aventure quotidienne. J'avais parlé de l'héroïsme du quotidien, mais je crois qu'aussi en tant que chrétien, on peut même parler de l'aventure. C'est-à-dire qu'on vit avec le Seigneur et on ne sait pas ce qu'il a prévu pour nous chaque jour. C'est extraordinaire. Ce n'est pas simplement le hasard. Dieu a prévu des choses pour nous. Alors, encore un verset. La faute de France, l'importance de notre vie. 1 Pierre 2, 12. 1 Pierre 2, 12. Ayez, au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, pour qu'ils disent du mal de vous, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est bon? Pour qu'il glorifie Dieu. Et je dis, c'était le but, ce que l'on veut. C'est de glorifier Dieu, que Jésus soit glorifié. Là, je vais prendre un petit peu de hauteur par rapport au texte biblique. D'abord, première chose, qu'est-ce qu'on remarque dans le Nouveau Testament? Combien de versets qui parlent de l'évangélisation? Relativement peu. En fait, relativement peu. On va revenir à ça lors d'une autre prédication. Il y a des exemples dans les actes, bien sûr. On nous dit d'être toujours prêt à donner la raison de l'espérance qui est en nous, de saisir les occasions, Colossiens 4, qui nous sont données. C'est relativement peu, mais je crois qu'il y a une raison pour cela. C'est que parce que le Nouveau Testament met tout l'accent sur la vie du croyant. Toutes ces lettres ont été écrites pour que les croyants soient ce que Dieu voudrait que nous soyons. D'abord, de comprendre l'Évangile, d'être sanctifié, de savoir prier, de nous aimer les uns les autres, etc. Parce que c'est ça, en fait, le fond de l'évangélisation. Comme on dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens, et même s'ils disent du mal de vous, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, il est extrêmement important de dire que notre vie reflète ce que nous croyons. Ok ? Premier auteur, je prends un petit peu. Deuxième auteur. J'ai relu, il y a quelque temps, j'ai fait au cours d'une soirée, parce que je voulais faire assez vite, les actes des apôtres, en une soirée. C'est bien. Là, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Qu'est-ce qu'on constate? En fait, j'ai cherché une chose dans les actes. J'ai cherché, et il y a énormément de livres là-dessus, j'ai cherché en fait quel était le plan, la stratégie des apôtres pour l'évangélisation. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Parfois, il y a des petits éléments que l'on peut dire. Par exemple, Paul allait très souvent d'abord à la synagogue, quand il arrivait dans une ville. Bon, d'une part, c'est là qu'il trouvait des personnes qui attendaient le Messie. Et en plus, le moment où il se convertissait, on avait des cadres de l'Église qui connaissaient déjà un petit peu l'Ancien Testament, enfin connaissait l'Ancien Testament pour pouvoir apporter un certain enseignement. Donc il allait à la synagogue. Deuxième chose qu'on remarque, et encore c'est pas toujours le cas, mais Paul s'établissait surtout dans les plus grandes villes pour rayonner à partir de là. Mais encore, il y a des exceptions. Troisièmement, souvent, enfin le but c'était qu'il y ait des groupes de croyants. Et Paul souvent travaille en équipe d'ailleurs pour donner l'exemple. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on trouve? Quand on lit les actes, on trouve que à la limite rien n'était prévu. Ils vivaient au jour le jour selon les petites rencontres fortuites. Quelqu'un s'approche de Paul, Paul rencontre quelqu'un. On a l'impression qu'il n'y a pas énormément de stratégie. Très construite.
Alors que faut-il conclure pour nous avec notre thème aujourd'hui? Si déjà dans les actes, une grande partie de l'annonce de l'évangile se basait sur des rencontres fortuites, alors on peut parler de la même chose pour nous. Jusqu'ici, j'ai parlé de l'héroïsme du quotidien, l'héroïsme du banal, mais on peut aussi parler de l'aventure du quotidien. Comment Puis-je glorifier Dieu dans mes relations avec les autres? Comment aimer mon prochain? Je pense que le Seigneur nous appelle à être dans un sens sur le qui-vive, de ne pas rester dans ma petite bulle égocentrique, d'ouvrir les yeux pour voir les gens autour de nous. Et à ce moment-là, de prier et même de guetter les personnes que le Seigneur va mettre sur mon chemin pour que je puisse l'aimer, pour que je puisse lui parler du Seigneur quand j'en ai l'occasion, par exemple quand il pose des questions. C'est une véritable aventure, ce n'est pas une vie banale, médiocre, mais une vie vécue sous le regard du Seigneur, en sa présence, coram Deo, comme on dit en latin. Et dans ce sens, chaque chrétien est comme un agent secret de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur va me permettre de vivre aujourd'hui pour le faire connaître et pour faire grandir son royaume? Voilà, l'aventure quotidienne, c'est la quatrième partie de ces aujourd'hui. Guetter la personne que Dieu va mettre sur ma route aujourd'hui pour lui faire du bien.